whispering just why you cuddle near me, whispering so no one near can hear me. Each little whisper seems to cheer me. I know it's true, there is no one but you. You whispering just why you'll never leave me, whispering just why you'll never grieve me. Whisper and say that you believe me. Whisper that I love but you.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Qu'est-ce que je m'amuse, moi! Qu'est-ce que je ris! J'ai 101 ans! 101 ans! Et je ris de tout! Je ris de tout!
Ce vieillard, d'âge palindromique, il avait 101 ans, s'amusait de tout. Hélas, il est mort. Chacun disait: à rire, Pépé périra! À rire, Pépé périra!
Et oui, bonjour à tous et à toutes, Radio Libertaire 89.4, c'est Vispassem qui revient comme tous les premiers de jeudi de chaque mois avec Elsa.
Bonjour papa, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs.
Oui, auditrices. Nous sommes sur Radio Libertaire, comme je l'avais dit. Et nous allons commencer notre émission avec pas mal de choses. Il y aura l'édito du numéro de l'Union Pacifiste. Et aussi un petit truc que nous avons imprimé qui vient de Pure Santé, où vous allez être assez surpris que... Allez, entre 1900 et 1936, il était courant d'utiliser pour la santé, des produits de santé radioactifs. À l'époque, on ne savait pas que ça pouvait nous rendre un peu barzingues. Mais à l'époque, la radioactivité, ah, c'était tout nouveau. Merci ceux qui avaient Curie et consorts. Voilà. Oui. Et je crois que Elsa va avoir pas mal de choses. Déjà, son journal La Bannière.
Oui.
Et aussi un truc de Greenpeace.
Alors, non, pas Greenpeace, mais Oxfam. C'est sur la soif du profit quand le secteur privé s'accapare notre eau.
Ah, bah, en ce moment.
mais c'est dans le même genre que Greenpeace. Donc, ça doit être un partenaire. Greenpeace d'accord. a beaucoup de partenaires. Oxfam doit en faire partie.
Je mets à coup le pas.
Non.
Bon, ben, tu commences ton édito de Greenpeace ?
Oui.
Allons-y.
Voici l'édito de Jean-François Julliard. L'ambition disparue du gouvernement. Dans une tribune parue mi-avril dans la presse, j'évoquais le quinquennat de la trahison écologique. La formule n'est pas outrancière. Au vu des multiples... Excusez-moi. Au vu des multiples renoncements du gouvernement, des promesses non tenues et des reculs sur les maigres acquis du premier mandat d'Emmanuel Macron, la critique est sévère mais juste. Pendant l'entre-deux-tours, le chef de l'État avait annoncé « Mon prochain quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Elisabeth Borne allait être nommée première ministre en charge de la planification écologique avec un secrétariat général dédié. Ces régressions sont une trahison de la parole politique. 2 ans plus tard, la priorité n'est plus celle-là. Comme à chaque fois, le gouvernement rabote sa propre ambition sur les questions environnementales. Et les actes ne trompent pas. Les reculs du printemps sur les quelques exigences écologiques de la politique agricole commune et l'abandon pur et simple d'une nouvelle loi de programmation énergie et climat ont scellé le destin des 2 années et demie qu'il reste au président de la République. Un peu passé sous les radars médiatiques, les baisses du crédit d'1 milliard d'euros pour MaPrimeRénov ou 340 millions dans les transports sont autant de coups de canif portés à la transition énergétique. Enfin, le démantèlement annoncé pour la fin de l'année de Fret SNCF va inévitablement entraîner une augmentation du nombre de camions sur les routes, des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Et franchement, il y a de quoi paniquer. Donc, une petite musique ou tu enchaînes sur un texte ?
J'étais enchaîné sur un texte, voilà.
D'accord.
Là, justement, ce petit texte dont je vous parlais sur les vêtements chauffants atomiques. Radioactivité des dessous de vêtements chauffants pour vos enfants. Chers lecteurs, chers lectrices, entre 1900 et 1936, il était courant d'utiliser des produits de santé radioactifs. À cette époque, vous pouviez boire de l'eau naturellement riche en radium, envelopper votre bébé dans des couvertures radioactives ou encore vous enduire de crèmes atomiques rajeunissantes. Voici quelques exemples de publicités anciennes qui vous feront peut-être sourire, mais qui sont toutes véridiques. Alors, on voit la première eau minérale radioactive, Busang, s'était déclarée à l'époque d'intérêt public. Ensuite, la laine au radium, une santé et douce chaleur radioactive. Burke et Brown, la barre de chocolat au radium pour des effets rajeunissants. Oui. Et Irradia, les sous-vêtements radioactifs du docteur Boré. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à considérer la radioactivité comme un phénomène dangereux et effrayant. On pense à la bombe atomique sur Hiroshima ou encore les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et Fukushima. Mais ce n'est pas le cas il y a un siècle. Après ma lettre sur l'iode en cas de catastrophe nucléaire, vous avez été nombreux à me demander des informations sur la radioactivité. Voici un retour sur 126 ans de recherche sur une étrange découverte un peu bipolaire sur les bords. Portrait d'une particule, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. La radioactivité est découverte par hasard par le physicien français Henri Becquerel en 1986, alors qu'il étudie la phosphorescence de l'uranium. C'est d'ailleurs en son hommage que l'unité permet... C'est d'ailleurs en son hommage que l'unité qui permet de mesurer l'activité d'une source radioactive est nommée Becquerel. Becquerel découvre alors que l'uranium émet aussi un rayonnement propre, capable de générer de la chaleur et d'impressionner des plaques photographiques, comme avec les rayons X découverts en 1895. C'est ensuite grâce aux travaux de plusieurs chercheurs, tels que Marie et Pierre Curie, ou encore Ernest Rutherford, que la science découvre peu à peu la nature de ce curieux phénomène. La radioactivité provient de différents atomes, naturels ou artificiels, uranium, radium, radon, polonium, qui présentent des caractéristiques particulières. Leur noyau est instable. Rendez-vous dans 4 milliards et demi d'années. À l'état naturel, on trouve ces particules radioactives dans certaines roches et parfois dans l'eau ou les sols. Sur ce site, vous trouverez une cartographie détaillée de la radioactive naturelle en France par région. Mais là, je ne pourrais pas vous la montrer parce que c'est une image. Mais elles peuvent aussi être créées. Contrairement à la plupart des éléments qui constituent la matière, ces atomes se désintègrent, libérant ainsi différents types de rayonnement. Alpha, c'est l'hélium 4, bêta, électron, ou gamma, les photons. À force de se désintégrer, l'atome radioactif donnera naissance à d'autres atomes et deviendra de moins en moins radioactif. On part alors de demi-vie d'un échantillon radioactif ou période radioactive, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour devenir deux fois moins radioactif. Cette demi-vie peut être plus ou moins longue selon les éléments. Seulement 8 jours pour l'iode 131 et 4 milliards et demi d'années pour l'uranium 238. On comprend mieux pourquoi, après une catastrophe nucléaire, certaines zones peuvent rester polluées pendant très très longtemps. Voilà, de façon très simplifiée, ce que la radioactivité, si vous souhaitez avoir des explications plus approfondies, je vous invite à lire le dossier plus complet réalisé par l'Institut de radioprotection de la sûreté nucléaire. Donc ça, c'est en abrégé, c'est IRSN. Ce qu'il faut retenir, c'est que les scientifiques et les industriels voient très vite un grand potentiel technologique, militaire, surtout militaire, et thérapeutique dans cette nouvelle source d'énergie. Si bien que que de nombreuses inventions plus ou moins insolites en découleront. Pardon. Alors... Le chocolat au radium et café radioactif, miam. Au moment de sa découverte, les scientifiques ne se doutaient pas des risques de radioactivité sur la santé. Tout au plus, Henri Becquerel remarque qu'un flacon de radium oublié quelques heures dans la poche de son gilet lui a brûlé la peau. À l'inverse, bon nombre d'industriels et de médecins voient dans la radioactivité un formidable atout santé et commercial. En tout, ainsi, entre 1900 et 1936, des dizaines de produits miracles et d'inventions farfelues qui utilisent les radiations, des crèmes anti-rides, des savons embellissants et des dentifrices à base de thorium et de radium. Pas mal. Des eaux minérales naturellement radioactives déclarées d'intérêt public, recommandées pour tous les maux et même à ajouter dans les biberons. C'est bien, avec de la poudre de lait, le bébé doit faire des bons. Ouais. Une publicité affirme même que si une femme en boit pendant 30 matins, elle se trouvera rajeunie de moitié. Des fontaines et cafetières radioactives permettent d'enrichir l'eau en radium. Voilà. Les aliments riches en radium pour le bétail et des engrais pour les plantes, des vêtements thermiques pour le ski et de la laine irradieuse pour tricoter la layette de bébé, lui confère une saine et douce chaleur radioactive. Et même du chocolat radioactif. Voilà. Vous trouverez davantage d'exemples illustrés dans cet article. Comme les médecins soignaient toutes les maladies avec la radiation. Ces utilisations étaient d'ailleurs bien souvent soutenues par les scientifiques. Ainsi, le docteur Darguet affirme en 1904 à l'Académie de médecine avoir soigné un grand nombre de malades sans avoir jamais observé la moindre complication, le moindre effet nuisible attribuable au radium. Dans les années 30, on prétend même pouvoir guérir à peu près tout et n'importe quoi grâce au radium. On trouve alors des prescriptions médicales de radium contre l'arthrite, l'hypertension, le diabète. Le médecin James Case, pionnier dans le développement de la radiothérapie, a d'ailleurs reconnu avoir donné des transfusions sanguines et d'autres traitements de soutien radioactifs pour traiter différents problèmes de santé, maladies cardiaques, ulcères, dépression. En 1934, Marie Curie elle-même citait comme thérapeute médicale la consommation, l'inhalation et l'injection intraveineuse de radon. Ah, pas mal. Ça doit faire peut-être plus d'effet que l'héroïne. Ça.
Elle était surtout complètement folle.
Ah oui, oui.
Ah bah bravo.
Fausse promesse et vrai danger. Elle révèle sa face sombre. En 1927, le prix Nobel... En 1927, le généticien et prix Nobel de médecine Hermann Joseph Müller découvre que les radiations des rayons X ont des effets mutagènes sur l'organisme. Cependant, cela n'alerte pas la communauté scientifique quant au risque des rayonnements radioactifs qui seront encore couramment utilisés dans l'industrie pendant près de 10 ans. Ce n'est qu'au milieu des années 30, à la suite de nombreux décès suspectés d'être liés à ces produits au radium, que cesse enfin cette mode dangereuse. L'enthousiasme retombe vite. Aujourd'hui, nous savons que la radioactivité peut avoir des effets graves sur la santé, qui peuvent varier selon le type de particule, la dose, la durée d'irradiation et le mode de contamination, ingestion, inhalation, contact cutané, vomissement et nausées en cas d'exposition rapide, décès par œdème cérébral, destruction de la moelle osseuse ou la paroi digestive en cas de forte exposition, augmentation du risque de différents cancers sur le long terme, notamment cancer de la thyroïde en cas d'absorption d'iode radioactif. Le rayonnement radioactif sont d'ailleurs classés cancérigènes avérés pour l'homme. Source d'énergie destructrice et créatrice. Les propriétés de la radioactivité n'ont pas seulement intéressé les médecins, mais aussi les ingénieurs, qui ont mis au point des procédés pour tirer profit de cette formidable source d'énergie. Ils découvrent comment enrichir l'uranium pour le rendre beaucoup plus instable et provoquer un éclatement du noyau de l'atome, fission nucléaire capable de libérer une immense quantité d'énergie. Cela est d'abord utilisé à des fins militaires, comme vous pouvez le comprendre. Ainsi, les premiers essais d'une bombe atomique sont effectués par les États-Unis en 1945, avec les conséquences catastrophiques que l'on connaît, Hiroshima, Nagasaki. Puis, au début des années 50, la première centrale nucléaire voit le jour, les premières centrales voient le jour aux USA, en Russie, en France, au Royaume-Uni et finalement dans le monde entier. Aujourd'hui, on estime que 10% de l'électricité dans le monde provient des centrales nucléaires, contre 62% des combustibles fossiles et 26% des énergies renouvelables. Mais cela est très variable d'un pays à l'autre, puisque 67% de la production d'électricité française est issue du nucléaire. cette source d'énergie est désormais contestée, notamment à cause des risques de catastrophes sanitaires, comme Tchernobyl ou à Fukushima, et parce qu'elle génère des déchets radioactifs qui perdureront pendant des milliers d'années. Il y a aussi ses bons côtés. Après l'émulation autour de la radioactivité dans les années 1900 et la grande peur qu'elle a provoquée dans les années 40, les scientifiques étudient plus sérieusement les effets de ces rayonnements sur la santé. Cette fois-ci, on est loin des promesses charlatanesques du début du siècle. En 1950, on découvre qu'une utilisation au milieu médical ciblée à faible dose peut avoir un véritable intérêt thérapeutique. C'est la naissance de la médecine nucléaire. Elle est aujourd'hui utilisée pour poser un diagnostic. On injecte des traceurs faiblement radioactifs chez le patient. Excusez-moi, j'ai un petit chat. Leur rayonnement permet de reconstruire une image précise de l'activité des organes malades, d'estimer la gravité d'un problème ou de détecter d'éventuelles récidives pour les cancers, maladies cardiovasculaires et neurologiques. Pour traiter des malades, le patient avale ou se fait injecter de faibles doses radioactives qui s'attaquent aux tissus malades. C'est la radiothérapie utilisée contre certains cancers, thyroïde, prostate, foie. Trois enseignements à tirer de cette histoire. À l'heure où le risque de catastrophe nucléaire revient au centre de l'attention, j'espère que cette lettre vous aura aidé à mieux comprendre la radioactivité, ses risques et ses atouts. Son histoire étonnante permet aussi de prendre du recul sur la recherche scientifique et de relativiser certaines prises de position dogmatiques. Tout ce qui est naturel n'est pas sain. Cela dépend de la dose et surtout de la façon dont on l'utilise. Ainsi, la radioactivité bien utilisée peut s'avérer précieuse, mais ce phénomène naturel peut aussi être extrêmement toxique. Il n'a pas sa place dans les crèmes anti-rides et des vêtements chauffants. 2. Il faut éviter d'avoir un avis trop tranché sur les choses. En 1900, la radioactivité permet de soigner toutes les maladies. En 2020, elle est un danger pour notre société et nous devrions cesser de l'utiliser. Mais il faut le dire, entre 1900 et 2020, la planète s'est radioactivée à cause de toutes ces bombes qui font éclater en tous les sens, déjà.
Bien sûr.
L'humain s'est affaibli.
Oui. Voilà. L'humain et la qualité de la nourriture aussi.
Tout.
À cause de la qualité de l'eau.
C'est ça. En 2020, elle est un danger pour notre société et nous devrions cesser de l'utiliser. Mais on l'a vu, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Oui, la radioactivité est responsable de milliers de morts, mais c'est aussi grâce à elle que nous avons toute l'électricité dans nos foyers. Ouais. Oui. C'est à prendre et à laisser.
Oui, à prendre avec des pincettes.
Oui. 3. Ce n'est pas parce que les scientifiques nous disent que c'est sans danger qu'ils ont raison. Des médecins et des chercheurs ont vanté pendant 30 ans les bienfaits de la radioactivité et assuré qu'elle était sans risque, avant que l'on découvre la vérité. Malheureusement, l'histoire ne se fait que se répéter. Rappelez-vous l'amiante, le médiator, et il faut parfois des années, voire des dizaines d'années, pour connaître les vrais effets d'une technologie sur notre santé. À méditer à une époque où on installe des antennes 5G, partout. Et on nous dit, sans le moindre recul, que des vaccins expérimentaux sont sans danger. Amicalement, le monsieur qui a écrit ce texte. Bonjour. Une petite pause musicale serait bienvenue.
Oui. Thank you.
de sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'enfoncent strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre. Et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre à moi les étrangers. La vie n'est pas à prendre, est belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis dessous la cendre, va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Ah, je crie pour me défendre à moi les étrangers. La
Serge Giroyot, Triton, et qui nous chantait cette amie de sous la cendre. En ce moment, ils doivent se tourner dans les tombes, ces gens-là, avec tout ce qui se passe en politique. Excusez-nous, on ne doit pas parler de politique sur Radio Libertaire. Nous ne disons rien au niveau des partis, mais simplement, la bête est à nos portes.
Oui.
Et dimanche prochain, je crains que ce soit...
Que ce ne soit une victoire. La victoire qu'elle attend depuis des lustres.
Oui.
Oui. Elle a un retour en force avec ce qui risque, quand on livre ce qui s'est passé dans la durant la collaboration, ça va revenir.
Je suis comme satisfait que ça réveille quand même des gens, qu'il y ait eu beaucoup moins d'abstention que dans les votes précédents.
Oui, oui, mais, ça c'est un bon point, mais ce n'est pas suffisant.
Mais je regardais les résultats sur Paris, il y a très peu d'arrondissements où il y a ballotage avec la bête.
Oui.
Mais c'est surtout en province qu'ils ont fait, le gros de leur butin.
Oui, ils jouent, et là on voit hein, vraiment une régression morale au 19e siècle. Et ça, je cite mon professeur d'histoire géographique que j'ai eu en troisième. Les premiers syndicats du peuple au rouge liés aux anarchistes étaient mal vus en province, par la paysannerie, parce que les rumeurs disaient ils prennent tout. Alors le petit paysan, qu'est-ce qu'il pense? Et il disait, mince, déjà que j'ai pas beaucoup, alors si on me prend ce que j'ai, comment est-ce que je vais vivre? Du coup, il vota à droite. Et il a fallu, après la guerre de 14-18, que la nouvelle génération de paysans qui avait poussé un petit peu plus loin les études comprennent que leurs parents et leurs grands-parents et arrière-grands-parents avaient tout compris de travers, et ils ont commencé à faire leur propre syndicat paysannerie, et du coup ils se sont mis à devenir des rouges. Et il y avait des anarchistes des anarchistes pacifistes qui les aidaient à s'en sortir. Et à partir de là, ça allait beaucoup mieux pour eux, parce qu'ils arrivaient à mieux gérer. Et là, on voit la régression. La marée noire s'en prend à toutes les provinces. Pour pouvoir gagner le pouvoir, c'est dire la régression. Voilà.
Avant que tu lises ton texte de la bannière, on va écouter cette petite musique là que je viens de mettre.
Oui.
Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort et deux fois mort. À vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Le rumeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement coquifié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie. Mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils. Et vous coupiez votre pain sur leur planche tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête. Se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant l'uniforme. Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ses Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de faire comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute, à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917, mutin de 1917.
Monsieur Jacques de Boncart, c'est un coffret qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, juste peut-être un petit mois, que EPM, et grâce à l'épouse de Boncart, ils ont réuni tout ce qu'il avait enregistré. Donc vous avez 5 CD fabuleux, dont les deux derniers, ce sont des concerts en direct. Voilà. Et comme disait Elsa, c'est après la guerre de 14 que vraiment le syndicat ouvrier a pris son essor. Ils avaient tellement souffert en 14-18, ils avaient vu la connerie qu'étaient les chefs militaires. Tous les gars, il me faut cette montagne, même s'il n'y avait rien derrière, il la faut. Donc, ce qui est arrivé, ce grand connard de
Nivelle,
oui. Ça, qui lui, c'est après avoir fait massacrer je ne sais combien de milliers de soldats que les hauts dirigeants ont commencé à lui taper sur le doigt, lui. Mais il y a eu des milliards de...
Oui, par exemple, la boucherie de Verdun et de la route des Dames. Une vraie boucherie aussi.
Et si vous n'avez jamais vu le film produit et interprété par Kirk Douglas...
Les Sentiers de la Gloire.
Les Sentiers de la Gloire et dirigé par Stanley Kubrick. Voyez-le, parce que même Kubrick a dit, c'est vraiment étonnant, c'est honteux que les Français ne fassent pas un film, il faut que ce soit les étrangers qui montrent cette connerie de 14-18. Vraiment, alors, pour que M. Douglas dise ça, parce que lui-même est d'origine européenne, oui. Avant de partir aux États-Unis.
Oui, polonais.
Donc, oui. Vous voyez que c'était dans son âme, il avait horreur de cette violence gratuite, tout ça. À toi, Elsa, pour...
La soif du profit, quand le secteur privé s'accapare nos trop.
Yes.
L'accès à l'eau est un droit humain fondamental. Pourtant, une personne sur trois dans le monde n'a pas accès à une eau potable salubre et abordable. Environ la moitié des lits d'hôpitaux dans le monde sont occupés par des personnes souffrant d'une maladie liée à l'eau. D'ici 2050, on s'attend à ce que le changement climatique prive 1,5 milliard de personnes supplémentaires d'accès à l'eau. Le changement climatique affecte donc le droit fondamental d'accès à l'eau et indirectement tous les autres objectifs de développement durable, ODD. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge aussi. Partout dans le monde, le secteur privé aggrave la situation en puisant et en polluant ses ressources précieuses au détriment des populations locales. L'agriculture seule utilise environ 70% des ressources naturelles en eau et l'industrie environ 16%. L'augmentation de la demande a fait de l'eau un véritable business. En 2021, le marché mondial de l'eau était estimé à environ 500 milliards de dollars. Ce rapport décrit comment le secteur privé met en danger l'accès à l'eau et cause des dommages à l'environnement. C'est une autre forme de génocide, vous constaterez par vous-même. L'impact du changement climatique sur l'accès aux ressources en eau. Une diminution de la quantité et de la qualité de la ressource en raison du changement climatique. Le changement climatique affecte le cycle mondial de l'eau. Le groupe de travail WGI du 6e rapport d'évaluation AR6 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a conclu que le changement climatique d'origine humaine a exacerbé les pénuries d'eau, entraîné une baisse de la qualité de l'eau et une augmentation des risques liés à l'eau, tels que les inondations et les sécheresses. Le rapport précise que certains événements météorologiques extrêmes augmentent en fréquence et ou en gravité en raison du changement climatique, degré de confiance élevé. Ces événements extrêmes associés à une vulnérabilité et une exposition élevée dans de nombreuses régions du monde se transforment en catastrophes et touchent des millions de personnes chaque année. À l'échelle mondiale, entre 1966 et 2006, on estime à 25% la perte de rendement du fait des sécheresses, des inondations, des tempêtes, conséquences directes du changement climatique à travers la modification du cycle de l'eau. En 2018, 3,6 milliards de personnes n'ont pas eu suffisamment accès à l'eau pendant au moins un mois. Avec un réchauffement climatique d'environ 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, entre 0,9 et 3,9 milliards de personnes devraient être exposées à un important stress hydrique. Selon les schémas régionaux de changement climatique et les scénarios socio-économiques envisagés, la vulnérabilité aux impacts du changement climatique et aux conditions météorologiques extrêmes liées à l'eau se fait déjà sentir et devrait s'intensifier à l'avenir. Au niveau mondial, 10% des bassins soumis à un stress hydrique important représentent 35% de la production mondiale de calories irriguées. La production alimentaire est menacée dans ces bassins, principalement dans les pays à faible revenu. À l'échelle mondiale, entre 1966 et 2006, on estime à 25% la perte de rendement du fait des sécheresses, des inondations, des tempêtes, conséquences directes du changement climatique à travers la modification du cycle de l'eau. Dans son rapport sur les dilemmes de l'eau, Oxfam a montré comment l'augmentation attendue de la température mondiale et le changement des précipitations rendront la population vulnérable. La moitié des personnes touchées résidant en Asie du Sud, suivie par l'Asie centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Renforçant des inégalités déjà importantes en matière d'accès à l'eau, avec des conséquences inacceptables sur les droits humains et sociaux. La sécurité hydrique est fortement liée à la sécurité alimentaire et à la santé. Par conséquent, l'insécurité hydrique peut conduire à différents types de menaces. Les sécheresses ont des conséquences directes sur l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, WASH. Elles affectent également les rendements agricoles, menacent la sécurité alimentaire et l'économie et peuvent devenir un moteur de pauvreté. Les pénuries d'eau diminuent également la qualité de l'eau, entraînant des maladies et affectant la santé des populations. Plusieurs rapports de la FAO, du GIEC et de ONU Water mettent en évidence les impacts disproportionnés de ces menaces sur les femmes et les enfants. Par conséquent, l'insécurité hydrique exacerbe les inégalités de genre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans 7 ménages sans eau courante sur 10, ce sont les femmes et les filles qui sont chargées de l'approvisionnement en eau, contre 3 sur 10 pour leur père masculin. Le changement climatique renforce donc les inégalités de genre en augmentant la part de travail de soins non rémunérés des femmes et la probabilité que les filles restent non scolarisées pour s'occuper de l'approvisionnement en eau. L'accès à l'eau revêt également une importance particulière pour les peuples autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, UNDRIP, fait explicitement référence à l'eau parmi les ressources naturelles avec lesquelles les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leur lien spirituel particulier avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures. Article 25. Parmi les autres groupes nécessitant une attention particulière en matière d'eau et d'assainissement figurent les enfants, les groupes minoritaires, les personnes âgées, les personnes handicapées, les communautés LGBTQIA+, les réfugiés et résidentes résidant des zones rurales et urbaines défavorisées, ainsi que les victimes de catastrophes naturelles et les personnes vivant dans des zones exposées aux catastrophes. D'ici 2030, 700 millions de personnes dans le monde pourraient être contraintes de déménager en raison d'une pénurie d'eau aggravée. Les inondations, conséquences de l'intensification et de la variabilité des précipitations, peuvent également entraîner des déplacements. L'Afrique abrite la moitié de la population qui boit une eau provenant de sources non protégées, en particulier dans la région subsaharienne du continent, où seulement 24% de la population a accès à une source d'eau potable sûre. Sur ce même continent, la faim ne cesse d'augmenter alors qu'elle stagne ou diminue partout ailleurs. 2. Accaparement de l'eau en période de pénurie, rôle de la privatisation et de la marchandisation. Tension hydrique et accaparement de l'eau. Malgré le déclin rapide de la quantité et de la qualité de l'eau douce dans le monde, la demande mondiale en eau continue d'augmenter. Depuis 1900, elle a été multipliée par 8 alors que la population mondiale n'a été multipliée que par 4,7. À ce rythme, la demande mondiale en eau devrait continuer à augmenter de 20 à 30% d'ici 2050. À l'échelle mondiale, l'industrie et l'agriculture représentent près de 90% de la consommation totale d'eau. On estime que les eaux agricoles et industrielles dans le monde contribuent à hauteur de 15% au stress hydrique. Cette augmentation insoutenable de la consommation mondiale d'eau est liée à un modèle économique extractiviste et ultra-productiviste qui consomme de grandes quantités de ressources naturelles, épuise les communs, exacerbe les pénuries et crée un cercle vicieux. Le changement climatique catalyse ce processus, déclenchant une course à l'eau qui exclut les plus vulnérables. Ces mécanismes peuvent être désignés comme accaparement de l'eau. Qu'est-ce que l'accaparement de l'eau ? L'accaparement de l'eau désigne une situation d'injustice dans laquelle un petit nombre d'acteurs puissants prend le contrôle des ressources en eau et les utilise à son profit aux dépens des autres utilisateurs ou des écosystèmes. Le pouvoir de décision sur l'eau est confisqué, notamment le pouvoir de décider comment et pourquoi l'eau est utilisée, sans le consentement libre, préalable et éclairé des communautés locales. Le processus peut être légal, bien que non légitime, illégal, contraire à la loi en vigueur, ou extra-légal, lorsque le cadre juridique est insuffisant. L'accaparement de l'eau et l'accaparement des terres sont intrinsèquement liés. L'accaparement des terres désigne l'acquisition à grande échelle de terres dans des pays du Sud par des gouvernements et des entreprises transnationales, principalement dans des objectifs économiques ou politiques. Cette pratique conduit indirectement à l'accaparement de l'eau utilisée par les investisseurs dans les projets agricoles, pour l'alimentation ou les agrocarburants, dans l'exploitation minière et dans d'autres activités industrielles. Le mécanisme d'accaparement de l'eau met en évidence que les pénuries d'eau et l'insécurité hydrique ne sont pas tant liées à la disponibilité absolue d'eau douce, mais plutôt à la répartition inégale de l'eau entre les groupes sociaux. En d'autres termes, la crise de l'eau est moins une conséquence d'une pénurie généralisée qu'une manifestation d'inégalité de richesse et de dynamique de pouvoir inégale. Une forte polarisation entre le Nord et le Sud global peut être observée. Profitant des inégalités économiques entre eux et des cadres institutionnels inadéquats, les pays riches et les multinationales transfèrent facilement la pression hydrique vers les pays les plus pauvres en importation des produits gourmands en eau et en y installant des industries polluantes ou des projets de biocarburants, etc. Par exemple, la demande croissante de produits électroniques dans les pays du Nord repose sur l'exploitation des minéraux rares, souvent dans les pays du Sud, comme l'Amérique latine, qui consomment ou polluent de grandes quantités d'eau. La production de fleurs pour les États-Unis et l'Europe, dans les zones vulnérables du Kenya et des montagnes andines, affecte profondément la quantité et la qualité des sources d'eau des communautés locales, ainsi que leurs conditions générales de subsistance. La surexploitation et la pollution des ressources sont ainsi facilitées par une logique néocoloniale qui draine les pays du Sud au profit des pays riches, laissant derrière elles les populations et les petits agriculteurs. C'est ce que Bolens et Hall qualifient d'hydrocolonialisme. La corne de l'Afrique est confrontée à une sécheresse dramatique depuis 2017, provoquant la pire crise alimentaire mondiale depuis 1945. Or, l'industrie a extrait 1 000 milliards de litres d'eau dans cette région en 2020. En 2021 et 2022, l'Éthiopie a exporté pour 4,1 milliards de dollars de marchandises, dont 83% étaient du café, des huiles, des légumes, de la viande et des fleurs, qui sont des marchandises très consommatrices d'eau. La moitié de ces exportations était destinée aux États-Unis, 9%, et à l'Europe, 41%. Au total, 2 milliards de dollars de biens consommateurs d'eau ont été exportés vers les pays du Nord, alors que le pays était confronté à une sécheresse majeure. Les prélèvements industriels et leur impact. L'eau industrielle représente 16,71% des prélèvements d'eau mondiaux. L'eau est essentielle pour de nombreuses opérations industrielles, tant dans la production de matériaux que d'énergie, et présente donc un intérêt capitaliste considérable. Elle est utilisée comme réfrigérant pour la production d'énergie dans les centrales à combustible fossile et nucléaire. De nombreux processus industriels, notamment dans la production de produits microélectroniques ou dans l'exploitation minière, produisent également de grandes quantités d'eau usée et polluée. Il existe des tendances néocoloniales majeures en matière d'utilisation de l'eau industrielle. La proportion d'eau douce prélevée à des fins industrielles est beaucoup plus élevée, environ 37,7% en 2019 dans les pays à revenus élevés que dans les pays à faible revenu, 2,69%. À l'échelle mondiale, les États-Unis sont les plus grands utilisateurs d'eau industrielle avec un prélèvement de plus de 300 milliards de mètres cubes par an, un millier de mètres cubes par habitant. C'est assez d'eau pour recouvrir l'Arizona ou l'Italie avec une piscine de 1 mètre de profondeur. C'est également 9 fois plus par habitant que la Chine, la deuxième plus grande consommatrice d'eau industrielle, avec 140 milliards de mètres cubes par an. Les mines, carrières et installations pétrolières et gazières consomment des quantités astronomiques d'eau, alors même qu'elles sont souvent situées dans des régions arides ou en situation de stress hydrique, comme l'Arabie Saoudite, le Texas aux États-Unis, le Mexique, le Niger ou l'Afrique du Sud. En Colombie, la compagnie pétrolière Perenco doit extraire 9 barils d'eau pour produire 1 baril de pétrole. Un réacteur nucléaire en circuit ouvert doit pomper puis relâcher après chauffage entre 55 et 200 mètres cubes par seconde. Cette soif incessante du système industriel a des conséquences dangereuses lorsqu'elle entre en concurrence avec les besoins humains vitaux, hydratation, alimentation et hygiène. Par exemple, l'installation d'une usine de transformation de phosphate à Gabès en Tunisie a entraîné le déclin progressif des oasis locales, où les agricultrices et agriculteurs luttent désormais pour survivre en raison du manque d'eau. Dans de nombreuses régions, les habitants et les groupes environnementaux ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'épuisement des réserves d'eau souterraines locales en raison de l'accaparement de l'eau par l'industrie. Dans les provinces argentines de Patagonie, le gaz de schiste s'est heurté à l'opposition des communautés directement concernées de la province de Neuquén, des habitants mapuches et des agriculteurs et agricultrices en aval de la zone fruitière de la province de Rio Negro. Le problème des pénuries d'eau est redoublé de celui de la pollution de l'eau. Les activistes industriels provoquent des les activités industrielles provoquent des rejets toxiques de métaux, d'hydrocarbures, d'acides et d'autres produits chimiques. Au Brésil, par exemple, les activités minières illégales, ainsi que la pollution au mercure et la déforestation qui en découle, menacent l'accès à l'eau potable du peuple autochtone Munduruku, du bassin de la rivière Tapajós. Là encore, l'accaparement de l'eau par la pollution industrielle est plus dramatique dans les pays en développement, où les multinationales du Nord peuvent s'implanter à moindre coût et avec moins de réglementation. Par exemple, la nappe qui alimente en eau potable la population d'Arlit au Niger a été contaminée par les activités minières d'Orano, ex-Areva, pendant plus de 40 ans, en toute impunité. Non seulement l'exploitation de l'uranium en pompant l'eau gratuite de la nappe locale a fait baisser le niveau des puits de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, mais elle menace également à long terme la potabilité de l'eau qui alimente plus de 100 000 personnes. Alors que 20% de l'uranium importé en France pour le fonctionnement des centrales nucléaires provient du Niger, la population locale, elle, ne bénéficie que de la désertification et des radiations qui persisteront pendant des centaines de milliers d'années après la fermeture des mines. Au Bangladesh, l'un des plus grands exportateurs de textiles au monde, les niveaux de pollution des eaux souterraines et des eaux de surface sont extrêmement élevés. Trois des rivières de la capitale Dhaka sont désormais reconnues par les autorités bangladaises comme biologiquement mortes. Et les habitants sont confrontés à des taux élevés de maladies cutanées et respiratoires. Alors, une petite pause.
Un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins qu'elle a tous émerveillés en proclamant partout haut et fort « Nous mettrons l'étranger dehors !» Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu. La bête est revenue.
Pierre Perret, une des chansons tirées de son album « Mes chansons engagées ». Voilà. Et elle est vraiment maintenant de... Écoutez-vous et faites attention dimanche prochain pour ceux qui doivent revoter. C'est tout ce que je dirais. À toi, Elsa.
Les multinationales de l'eau en bouteille. En 50 ans, l'eau en bouteille est devenue un secteur économique majeur, l'un des plus dynamiques au monde, avec un bond de 73% entre 2010 et 2020. C'est également devenu un paradigme de l'accaparement de l'eau par des entreprises privées qui considèrent que l'eau est une denrée alimentaire comme une autre et qu'elle doit avoir une valeur marchande. On estime que les entreprises d'embouteillage utilisent en moyenne 2 à 3 litres d'eau pour produire 1 litre de leur produit final. Or, la quantité d'eau souterraine prélevée dans certaines régions dépasse souvent les taux de recharge naturelle des nappes et a des impacts locaux importants, en particulier lorsque les entreprises opèrent dans des endroits où les communautés souffrent déjà de pénuries d'eau potable. Au cœur de ces phénomènes, on trouve les processus de privatisation, transfert du contrôle et de la propriété des ressources à un acteur à but lucratif, et de marchandisation, incorporation d'une ressource autrefois publique, commune ou non marchande dans le marché. Ces processus entravent l'accès à l'eau, notamment en augmentant son prix. Le secteur privé vend l'eau en bouteille 150 à 1000 fois plus cher que l'eau du robinet. Les entreprises misent sur une perte de confiance dans l'eau du robinet, aggravée par la pollution industrielle et les pénuries d'eau qu'elles accentuent elles-mêmes pour ouvrir de nouveaux marchés. Un rapport des Nations Unies de 2023 a révélé que plusieurs campagnes de marketing de l'industrie de l'eau en bouteille visaient à discréditer l'eau du robinet tout en promouvant le concept de pureté de l'eau en bouteille. Cela privatise ce qui était jusqu'alors un bien public et conduit les autorités à abandonner progressivement les infrastructures publiques. C'est pourquoi, selon le rapport des Nations Unies, on peut affirmer que le secteur de l'eau embouteillée n'est pas stratégiquement aligné avec l'objectif de fournir un accès universel à l'eau potable. De plus, ce marché en explosion joue sur le flou des frontières administratives et la fraude. Le rapport des Nations Unies dénonce le manque de transparence et de réglementation, notamment dans les pays du Sud. Si l'environnement et les populations les plus pauvres paient le prix fort de la privatisation de l'eau, quelques-uns en sont les grands gagnants. Le milliardaire le plus riche de Chine, Zhong Shanshan, a bâti son empire Nongfu Spring en extrayant l'eau de centaines de rivières et montagnes les plus importantes du pays sur le plan écologique. L'entreprise occupe la première place dans le secteur de l'eau en bouteille en Chine, avec une part de marché nationale d'environ 20% et une croissance phénoménale. Chaque minute, plus de 1 million de bouteilles en plastique à usage unique sont vendues dans le monde. En 2021, le marché de l'eau en bouteille était estimé à près de 270 milliards de dollars. Les ventes devraient doubler d'ici 2030. En comparaison, le financement annuel nécessite de 2015 à 2030 pour parvenir à un approvisionnement universel en eau potable. ODD 6.1. C'était initialement estimé à 114 milliards de dollars. En d'autres termes, assurer l'accès universel à l'eau potable ne coûterait qu'environ la moitié de ce que le monde paie chaque année pour l'eau en bouteille. Le rôle du secteur agricole et agroalimentaire dans l'accaparement direct et indirect de l'eau. L'agriculture représente environ 70% de la consommation mondiale d'eau. C'est également l'un des principaux secteurs responsables du détournement et de la pollution de l'eau. Les surfaces irriguées ont augmenté de 60% depuis 1960 et bon nombre des principales zones agricoles du monde manquent d'eau sous la pression de l'épuisement des aquifères et des sécheresses exacerbées par le changement climatique et la déforestation. 57% de l'empreinte mondiale en eau bleue n'est pas durable. Cette empreinte insoutenable est principalement liée à six cultures: le blé, le riz, le coton, la canne à sucre, le fourrage et le maïs, situés dans seulement 5 pays. Malgré les pénuries, l'eau est souvent utilisée pour satisfaire des intérêts économiques, notamment à travers l'industrie des agrocarburants et l'élevage. Parmi les 3 milliards de tonnes de céréales produites en 2019 dans le monde, 33% ont été consacrés à l'alimentation animale et environ 10% ont été utilisés pour produire des agrocarburants. Le secteur des agrocarburants et l'élevage industriel jouent tous deux un rôle particulièrement important dans l'accaparement de l'eau. À l'échelle mondiale, l'élevage industriel est la principale cause de la déforestation. L'expansion des pâturages est responsable de 41% de la déforestation tropicale, soit 2,1 millions d'hectares, soit la moitié de la superficie des Pays-Bas. Cela perturbe inévitablement le cycle de l'eau. De plus, les aliments utilisés pour nourrir le bétail utilisent beaucoup d'eau. Environ la moitié de la production de maïs est destinée à l'élevage industriel dans le monde. Les deux tiers des cultures céréalières dans l'Union européenne sont destinées à l'alimentation animale. En tout, on estime qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. Les produits agricoles gourmands en eau accroissent indirectement notre consommation d'eau, y compris quand l'eau prélevée sert à produire un bien qui sera consommé sur un autre territoire via les importations. La demande du marché stimule l'offre et est donc responsable de pratiques d'accaparement de l'eau au niveau international. Les concepts d'eau virtuelle et d'empreinte d'eau nous aident à mesurer cette responsabilité. Au Brésil, l'industrie du soja représente 50% de la demande mondiale. Dans le Cerrado et en Amazonie, la culture du soja a provoqué une déforestation massive, entraînant une augmentation des sécheresses. Elle a également dévié d'énormes réserves d'eau, menaçant les principaux écosystèmes de ces deux zones écologiques sensibles, ainsi que les droits des peuples autochtones et des communautés locales qui y vivent. La consommation de produits agricoles en Europe a donc un impact sur l'accaparement de l'eau au Brésil. Pour chaque litre de diesel acheté en France, 225 litres d'eau ont été privatisés en Amérique latine. Au cours des années 2000, la région désertique d'Ica au Pérou a connu une croissance exponentielle de l'agro-industrie et des exportations non traditionnelles, asperges, raisins, paprika, créant une grave pénurie d'eau souterraine et conduisant à une situation dramatique pour les populations urbaines et les petits agriculteurs. Le manque de réglementation et de collaboration des pouvoirs publics. L'accès à l'eau est un droit humain fondamental à l'échelle mondiale. La reconnaissance de ce droit crée des obligations par les gouvernements, les acteurs non étatiques et les organisations internationales de respecter, protéger et promouvoir l'accès à l'eau pour toutes et tous. Cependant, ces dispositions ne répondent pas au problème de l'accaparement de l'eau et n'offrent pas une protection adéquate dans la pratique. En outre, les réglementations ne sont souvent pas appliquées et sont tout simplement ignorées en raison de l'absence de mécanismes d'application robustes, ce qui entraîne des menaces directes pour la réalisation des droits de l'homme. 1. Absence, manque ou échec des réglementations opposables pour protéger l'eau. Le droit à l'eau est reconnu dans les droits de l'homme au niveau mondial, mais aussi régional et national, par exemple au Kenya, en Afrique du Sud et en Slovénie. Cependant, ce droit garantit l'accès à l'eau pour un usage personnel et domestique, mais laisse l'agriculture en dehors de son champ d'application. Plus largement, il est reproché à cette formulation du droit de réduire l'eau à un bien individuel au lieu de la considérer comme un bien commun, d'ignorer les droits collectifs et les modes d'accès à l'eau et de ne pas tenir compte de l'importance critique de l'eau pour les autres espèces et l'environnement dans une conception très anthropocentrique. L'OCDE a élaboré des lignes directrices détaillées sur l'eau, fournissant des orientations politiques sur une série de sujets liés à la gestion des ressources en eau et à la fourniture de services liés à l'eau. Au niveau des Nations Unies, des négociations ont été engagées pour élaborer un traité international obligeant les entreprises multinationales à se conformer à un devoir de vigilance en matière de droits de l'homme et d'environnement, Cette négociation est toujours en cours. Les règles régionales et opposables dans l'Union européenne comprennent une série de réglementations protégeant l'accès à l'eau, la gestion de l'eau et sa qualité. Il existe également des conventions régionales protégeant les grands fleuves européens. Cependant, aucun de ces instruments n'empêche les pratiques d'accaparement de l'eau. De même, au Brésil, l'article 225 de la Constitution énonce que toute personne a droit à un environnement écologique et libre en tant que bien commun au peuple. Cependant, les données et les cas que nous avons éclairés à travers ce rapport montrent avec évidence que le système juridique du Brésil ne parvient pas à protéger la ressource en eau contre l'accaparement et la pollution. En Afrique, il existe de multiples déclarations politiques et instruments au niveau continental et national pour mettre en œuvre une politique de gestion durable de l'eau. Ces outils sont rarement opposables. Malgré ces multiples politiques, les autorités publiques ne parviennent souvent pas à faire appliquer les normes, que ce soit faute de capacité ou de volonté politique. Le Auckland Institute révèle que partout sur le continent, les gouvernements, avec le soutien et l'aide des institutions internationales comme la Banque mondiale et les agences d'aide publique occidentales, promeuvent des programmes agricoles à grande échelle. Il n'existe aucune institution spécifique des Nations Unies qui travaille sur l'eau. 2023 a vu le premier sommet sur l'eau depuis 1977. Le résultat de cette conférence, le programme d'action sur l'eau, n'avait pas dans ses objectifs de mettre en œuvre une prévention de l'accaparement de l'eau. Le secteur privé s'est engagé à accélérer l'accès à l'eau sans remettre en cause certaines pratiques qui portent atteinte aux capacités des populations à atteindre leur droit d'accès à l'eau. Ainsi, moins d'un tiers des entreprises agroalimentaires les plus influentes du monde réduisent leur consommation d'eau et leur niveau de pollution. À l'échelle mondiale, aucune réglementation n'empêche l'exportation ou l'importation régionale de produits très consommateurs d'eau. 2. Les pratiques industrielles sont sous-réglementées. En outre, les pouvoirs publics ne parviennent souvent pas à garantir, même imparfaitement, le droit à la sécurité hydrique. C'est le résultat des faiblesses du système juridique, du manque de régulation, de l'absence de contrôle, voire du soutien des pouvoirs publics avec le prétexte de la croissance économique. En France, où est extraite l'eau de Volvic, les pouvoirs publics ont décrété 2 mois de limitation des prélèvements souterrains en mai 2023 en raison d'une sécheresse importante. Néanmoins, Danone a eu l'autorisation de continuer à pomper dans la nappe phréatique. Il a même été révélé que Danone pompait davantage d'eau durant l'été. Or, Danone exporte 70% de sa production de bouteilles. L'entreprise a réalisé d'énormes bénéfices en 2023. 881 millions de dollars de bénéfices et 1238 millions de dollars de dividendes. En 2022, elle a déclaré prélever 66 883 000 mètres cubes d'eau. Au Mexique, l'article 4 de la Constitution mexicaine énonce que l'eau et l'assainissement sont des droits humains inaliénables. Cependant, la libéralisation du marché de l'eau depuis 1992 a accéléré le déclin de la disponibilité en eau par habitant. Selon le mouvement Agua para Todos, cette législation a conduit en 30 ans à la monopolisation et à la surexploitation de l'eau par de grands utilisateurs. 70% du volume d'eau attribué en concession au Mexique est aujourd'hui contrôlé par 2% des titulaires de concession. Oui, en effet. Enfin, dans certains cas, les autorités publiques sont complices de l'accaparement de l'eau, directement ou sous l'influence d'une élite extractive. C'est ce que l'on peut appeler la mainmise politique sur l'eau. Dans les Deux-Sèvres, en France, 40 millions d'euros d'argent public ont été dépensés pour construire 16 réservoirs de stockage auxquels seront raccordés seulement 5% des agriculteurs pour la production de céréales et de maïs.
Est-ce croquerie ?
Oui. Le Nil illustre les limites d'une irrigation excessive au détriment des ressources en eau. Pour faire face au stress hydrique croissant, les pays s'efforcent d'améliorer l'efficacité de leur système d'irrigation. Cependant, l'irrigation reste inabordable pour de nombreux petites et petits agricultrices et agriculteurs et profite largement aux agro-industries, dont les cultures sont destinées à l'exportation plutôt qu'à la consommation alimentaire locale. À l'échelle mondiale, on estime qu'en 2021, 520 milliards de dollars de subventions publiques accordées ont été considérées comme nuisibles à l'environnement dans le secteur agricole, notamment les systèmes d'irrigation qui provoquent l'épuisement des aquifères. Enfin, les accords commerciaux mondiaux et régionaux stimulent l'exportation et l'importation de biens consommateurs d'eau et participent à la multiplication des pratiques d'accaparement de l'eau. L'accord du Mercosur met les agriculteurs en concurrence et encourage les industries extractives. Les États peuvent soutenir formellement et financièrement des projets d'accaparement de l'eau ou bien de manière informelle par le biais de pratiques de corruption qui affectent plusieurs secteurs de l'eau. L'ONU identifie de nombreuses formes de corruption dans le secteur de l'eau qui ont un impact direct sur les populations concernées. Les recommandations d'Oxfam. A. Créer un cadre de réflexion vers une régulation sur les produits importés à forte intensité en eau. Il faut entamer une réflexion sur la création d'un nouvel outil de régulation au niveau de l'Union européenne qui réduirait progressivement son empreinte eau. Cela nécessitera de définir quelle politique devrait être mise en œuvre, sur quelles marchandises et dans quel délai. Les critères pour chaque menace identifiée ainsi que le type de produit concerné doivent être discutés démocratiquement et Oxfam est disposé à contribuer à ce travail. B. Assumer la responsabilité historique des États, assurer un financement ambitieux pour l'adaptation et l'accès universel à l'eau dans les pays en développement. 1. Investir dans la sécurité hydrique et la gestion durable de l'eau. 2. Compenser les personnes les plus touchées par la crise climatique, investir durablement dans les systèmes et services d'eau et d'assainissement. 3. Assurer la représentation des citoyens et leur implication dans les instances de suivi des services WASH. C'est la transition de l'agro-industrie vers l'agroécologie. L'agroécologie améliore l'infiltration de l'eau dans le sol, économisant et conservant l'eau. Les États doivent soutenir financièrement l'agroécologie par le biais de leur représentation auprès d'organisations internationales ou de subventions nationales. Arrêter de financer l'agro-industrie. Intégrer des objectifs spécifiques visant à réduire la pauvreté et les inégalités entre les sexes, à soutenir l'agriculture familiale et à améliorer la situation des zones rurales. Pour y parvenir, les marchés mondiaux du Nord doivent entreprendre une réorientation majeure de leur soutien financier agricole vers l'agroécologie. La coexistence contre-productive entre subventions aux agro-industries et politiques agroécologiques n'est plus acceptable. Choix méthodologique. Alors, ce rapport regroupe des recherches et des articles de presse provenant de diverses sources. Nous présentons quelques exemples et non une cartographie exhaustive de situations d'accaparement d'eau actuelles ou passées, mais ayant encore un impact sur l'environnement ou les populations. Nous mettons l'accent sur les mécanismes d'accaparement de l'eau par les entreprises dans toutes les régions étudiées, tout en montrant le lien entre les impacts climatiques sur l'eau et ces entreprises. Chaque entreprise mentionnée a été contactée pour lui permettre de commenter les résultats de notre étude. Les réponses sont publiées séparément sur notre site internet. Pour élaborer le rapport, nous avons utilisé une définition large de l'accaparement de l'eau. Comme il n'existe pas de définition officielle de ce terme, nous faisons référence à des situations d'injustice dans lesquelles un petit nombre d'acteurs puissants prennent le contrôle, réaffectent ou utilisent les ressources en eau à leur profit aux dépens des autres utilisateurs ou des écosystèmes. Nous sommes conscients que nous avons pu utiliser indifféremment les termes tension hydrique, insécurité hydrique ou stress hydrique, bien qu'ils aient des définitions différentes. Nous assumons l'emploi interchangeable de ces termes à des fins de vulgarisation. L'effet de la demande d'énergie renouvelable sur l'eau ainsi que la excusez-moi, financiarisation de l'eau ont été volontairement exclus de cette étude compte tenu de la complexité des sujets. Nous sommes conscients que l'hydroélectricité a un impact important sur le cycle de l'eau et sur la disponibilité de la ressource à la fois pour les humains et pour la biodiversité. Cependant, ces questions nécessitent une recherche spécifique sur les choix politiques et les équilibres vers d'autres impacts connexes sur les ressources naturelles et la biodiversité. Cette analyse n'aurait pas été bien traitée dans ce rapport qui se concentre sur l'impact social et environnemental des pratiques de certaines entreprises en comparaison des bénéfices qu'elles réalisent. La question de la financiarisation de l'eau nécessiterait également une étude plus complète et aurait détourné le rapport des pratiques d'accaparement direct et physique de l'eau. Nous n'avons pas non plus couvert les services d'eau et d'assainissement car il ne s'agit pas d'une pratique directe d'accaparement de l'eau. Sur ce domaine, on peut se référer au rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement des Nations Unies. Enfin, cet article ne vise pas à fournir une critique holistique de l'implication du secteur privé dans la gestion de l'eau en tant que service public. Il examine l'accaparement de l'eau par les entreprises du secteur de l'eau et souligne des abus commis par des entreprises des secteurs les plus consommateurs d'eau qui bloquent le droit des populations à accéder à l'eau potable et nuisent à l'environnement. Alors, comme le reste des annexes sont les définitions... il reste à lire accaparement de l'eau et mainmise politique, le rôle prédominant des agrocarburateurs. Moins d'un tiers des entreprises agroalimentaires. Mais comme le temps, il reste 5 minutes, je pense que ce n'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire.
Je pense que ce n'est pas nécessaire, oui. Et que vous avez tous compris que combien il faut faire attention au choix ces prochains jours. Hein.
Voilà. Donc, nous allons passer le générique.
Oui.
On vous remercie de votre écoute.
Oui.
Et nous nous retrouvons. Au mois de septembre, hein,
parce oui. que
tout le monde va se reposer. Ça. Donc, oui. On sera frais et gaillard. On vous souhaite de bonnes vacances, tout ça.
Oui.
Et ne vous faites pas trop de cheveux blancs, parce que la situation qu'on va vivre dans les semaines qui vont suivre n'est que la bêtise de ce gouvernement qui va sauter sur un pied. Espérons que le noir ne sera pas aussi noir et qu'il y aura un peu plus de couleur,
oui.
surtout dans l'hémicycle. Voilà.
Oui.
Merci de votre écoute et nous allons quitter avec M. Boris Vian, notre
oui.
générique.
Oui, ne lâchez pas la patate.
Surtout pas.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Eh bien, si c'était un président avec une tête de Boris Vian, ce serait beaucoup mieux. Voilà, merci de votre écoute. Voilà. Et je vais, Jazive et Epsilonia m'ont envoyé leur émission. Et je vais vous en avez pour 4h30 d'écoute en continu. Et je vous souhaite une très très, très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Émission enregistrée ce soir, dédiée aux nouveautés et à une petite nouveauté. Mais avant, n'oubliez pas de vous connecter sur le site de la radio pour télécharger la souscription. Nous avons toujours besoin de votre soutien et de consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre et d'aller sur l'agenda où l'ensemble des émissions sont répertoriés et également le podcast disponible pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé la dernière émission avec Étienne Guéraud qui était assez passionnante. Et donc, en ces temps sombres qui s'annoncent, enfin qui sont même plus qu'annoncés, je vais essayer de vous faire oublier l'actualité pendant 2h30 de façon à vous aérer un petit peu la tête avec des nouveautés discographiques et puis un feuilleton qui sera une petite surprise. C'est un feuilleton de l'été en 4 parties. Vous aurez en fait les 2 feuilletons pour juillet, puis les 2 feuilletons pour août, et puis voilà. Donc je vous laisserai découvrir cette petite surprise. Et en attendant, nous allons, comme je n'avais pas réussi la dernière fois, l'antépénultième émission à vous passer tout ce que je voulais, Je vais donc vous passer deux morceaux de l'album Work in Progress du Eric Barrett Trio, qui m'avait paru tout à fait intéressant, et comme je voulais vous en passer plus, bon, cette va être donc l'occasion. Je rappelle que cet album est avec Gauthier Garrigue à la batterie, Émile Spanier au piano, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer, et évidemment Eric Barret au saxophone ténor, et ça a été enregistré en public au Jazz Club de Dunkerque en juin 2022. Voilà, et donc nous allons écouter dans un premier temps un thème qui s'appelle « In the Moorland », et on enchaînera directement avec l'autre thème qui s'appelle « Dreamwork ». Voilà, c'est parti.
Mm-hmm. heureux.